La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nos opinions politiques sont bien souvent influencées par des représentations fictionnelles. Aux États-Unis notamment, des œuvres littéraires et cinématographiques ont contribué à donner de la pratique du pouvoir dans ce pays, une certaine image aux électeurs, et ont façonné leur inconscient. Nous avons choisi cette semaine d'en détailler quatre en particulier. House of Cards est la grande série sur la politique politicienne à Washington. L'élection de Trump en 2016 ainsi que la décision de ne pas diffuser une saison pourtant déjà tournée suite à des soupçons de harcèlement pesant sur l'un des acteurs principaux ont renforcé ces dernières années l'acuité de cette œuvre au cœur des représentations politiques américaines. Nous en parlerons au cours de notre quatrième et dernier épisode. Le troisième sera, lui, consacré à « Autant en emporte le vent », roman relu aujourd'hui à la lumière de ses préjugés racistes. Enfin, le second numéro de notre série portera sur le roman de Philip Ross, « Le complot contre l'Amérique », politique fiction portant sur l'arrivée d'un sympathisant de l'Allemagne nazie dans le bureau ovale. Et aujourd'hui ?
We take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of
freedom,
and that government of the people, by the people, for the people shall not perish.
Aujourd'hui, un conte de fées politiques aux accents populistes. Nous parlons du film de Frank Capra, Mr. Smith Goes to Hollywood, en français Monsieur Smith au Sénat. Film dont un extrait de la scène qu'on vient d'entendre était cet extrait où l'enfant lit des étoiles dans les yeux la Constitution des États-Unis. On va parler aussi d'autres films de ce réalisateur américain parce qu'il est souvent question de politique dans ses films, tout comme nous allons essayer de parler un peu de l'homme et de son parcours. Tout cela grâce à vous, Serge Chauvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma, professeur de littérature et de cinéma américain à l'université Paris-Nanterre et vous êtes un grand amateur du cinéma de Frank Capra. Qu'est-ce qui vous plaît d'ailleurs en particulier? Qu'est-ce que vous aimez vraiment le plus chez Capra?
Sa vitalité, je dirais, qui est à la fois celle de la mise en scène, un sens du rythme et des syncopes, et parfois d'ailleurs aussi bien de la vitesse que d'une manière de faire durer une scène, et surtout la dimension profondément incarnée de son cinéma, aussi bien chez ses protagonistes que chez le moindre des seconds rôles, une sorte de gourmandise pour l'humain dans ses jusque dans ses défauts, dans ses tics, dans ses excentricités et puis tout de même une manière d'incarner aussi des idéaux, des valeurs, des rêves, tout en les mettant à l'épreuve d'une réalité souvent très 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 douloureuse et dont il ne dissimule pas la part sombre.
Alors vous avez consacré à ce cinéaste notamment une conférence intitulée « Qui êtes-vous, Frank Capra ?» C'était à la Cinémathèque de Paris. Vous avez trouvé la réponse à cette question ?
Capra est un cinéaste profondément contradictoire à plusieurs égards, notamment politique. Par ailleurs, c'est un cinéaste qui a entretenu sa légende et qu'il l'a plusieurs fois réécrite, je dirais, jusque dans son autobiographie au début des années 70, et qui a essayé d'en faire en quelque sorte un film à la Capra de son parcours.
Donc c'était un film qui se termine bien, un feel good movie, un film à la Capra.
En quelque sorte, mais là encore, de manière, comme toujours dans ces happy ends, de manière assez volontariste, puisque il a connu aussi, enfin sa carrière s'est délitée au cours des années 50, et après il y avait une dimension davantage commémorative, et en même temps, bon, il a été un petit peu statufié de son vivant. Il a vécu presque centenaire, et donc son statut canonique était acquis, je dirais, mais oui, au prix de certains sacrifices et de certains arrangements avec les complexités du réel.
Lesquels, par exemple?
Ben, par exemple, ça, ces fluctuations politiques et qui reflète de toute façon un positionnement assez ambivalent, assez équivoque, mais la tentation à la fois de montrer le caractère prophétique de certains de ses films, comme en disant que vous ne l'emporterez pas avec vous, préfigurer les hippies par exemple, et puis malgré tout une volonté de ne pas être associé à une vision trop gauchiste, ni même trop rooseveltienne de ces films.
C'est peut-être aussi l'époque, le McCarthyisme qui lui faisait peur et qui voulait, qui faisait qu'il avait envie de mettre à distance la possibilité qu'on puisse imaginer qu'il soit communiste, même s'il ne l'était absolument pas.
Absolument, c'était sa hantise. Et d'ailleurs, bon, le co-scénariste de Monsieur Smith au Sénat, Sidney Bookman, était lui membre du Parti communiste à l'époque du film. Et effectivement, Capra, après-guerre, a fait tout son possible pour ne pas pouvoir être taxé, disons, de sympathie communiste. Et dans l'exaltation pendant la guerre de l'allié soviétique, dans ses documentaires, ce qui relevait d'une commande officielle de toute façon, et dans une lecture qu'on aurait pu penser effectivement trop gauchiste de son et de sa dénonciation de la politique telle qu'elle était pratiquée, ou de l'influence des milieux d'affaires ou des médias d'une part, et dans l'exaltation, disons, d'une communauté de base d'autre part. Et d'ailleurs beaucoup de films pas seulement de Capra, mais des années de guerre en particulier, qui célébraient justement la solidarité des civils, ont ensuite encouru les foudres, effectivement, des McCarthyistes, enfin des chasseurs de sorcières, on va dire, de l'après-guerre.
Alors on va voir qu'il n'était pas communiste du tout, mais qu'au fond, s'il fallait trouver un mot pour le qualifier, lui et peut-être aussi son cinéma, ce serait contradictoire. C'est un homme contradictoire qui fait des films qui sont peut-être même intrinsèquement contradictoires.
Absolument. Je crois qu'il y a une profonde adhésion à l'Amérique, à ses valeurs et à son système politique, et en même temps une hantise constante que ce système ne soit dévoyé, détourné, que le pouvoir ne soit confisqué par des politiciens corrompus, par des affairistes monopolistes, et le paradoxe aussi, c'est que on présente beaucoup Capra comme un cinéaste de la communauté, et en même temps, il y a la question qui se pose toujours, c'est notamment dans Monsieur Sissou Sénat, mais encore plus dans La Vie est belle, je dirais, c'est celle de la place qui demeure à l'individu dans ce contexte.
Voire même de l'individualisme, parce que ce sont des héros qui s'élèvent au-dessus de la communauté, certes pour le bien de la communauté, mais ils suivent leur propre parcours. Ils ne cherchent pas finalement la synthèse, ils cherchent à finalement déployer leur propre vision du monde.
Oui, alors en même temps, effectivement, pour le bien d'autrui, ce sont des idéalistes, et ce sont souvent des émanations, effectivement, de la communauté. Bon, Monsieur Smith, ça sera l'exemple parfait. C'est justement un Monsieur Smith, comme l'homme de la rue est un homme quelconque, un Monsieur tout le monde, un John Doe en anglais. Et c'est ce qui les rend potentiellement crédibles comme porte-parole de la communauté. Et en même temps, comment dire, ce Ils essayent de suivre leur propre voie, de même que justement, Capra a toujours célébré la petite entreprise, le self-made man, l'initiative individuelle, même quand il s'agit d'un banquier comme dans La Ruée, ou d'un fondateur d'un crédit mutuel immobilier dans La Vie est belle, ou d'un entrepreneur aéronautique dans L'Enjeu. On a donc cette exaltation de l'individu. En même temps, dès lors qu'il se soucie du bien commun, il s'expose à devenir une figure sacrificielle, ce qui culmine dans La Vie est belle.
Capra venait du peuple, venait vraiment de la toute petite Italie, à New York, du peuple. Il s'est passé une chose, c'est qu'il avait une concession avec lui-même, malgré l'ambition qui était la sienne de devenir une sorte de cinéaste extraordinaire, reconnu, grand artiste. Il voulait toujours rester près du peuple. Pas près du peuple avec démagogie, c'est une concession parce que lui s'était élevé, mais dire « si le peuple ne rit pas, je me trompe ». Si le peuple n'est pas ému, je me trompe. Donc je reste près du populaire. Et curieusement, alors que ce n'était pas un calcul tout à fait, il retrouvait la base même de tous les émigrés qu'avait fait Hollywood, c'est-à-dire tous les producteurs, là on parle plus des cinéastes, qui était le cinéma est fait pour le peuple, c'est lui qui apporte son argent, pas les snobs, pas les riches, pas les élites. Et en fait, il a répondu au portrait. Si vous voulez, si aujourd'hui on faisait un portrait robot des cinéastes américains de la première et deuxième génération, on trouverait Capra. Capra, c'est vraiment Monsieur Rien qui arrive, qui avec son intelligence, avec sa volonté, avec son courage, comprend l'Amérique. Au point qu'il devient l'Amérique et devient même un modèle de l'Amérique pour les Américains. Et je crois que c'est quand même un itinéraire très curieux.
Le cinéaste et historien du cinéma Noël Simsolo. On peut peut-être en effet revenir sur quelques éléments biographiques qui expliquent assez bien le rapport de Capra à la politique américaine. Serge Chauvin, en rappelant peut-être d'abord qu'il est né en Sicile en 1897 et qu'il arrive avec sa famille aux États-Unis en 1903. Et là, c'est vraiment l'immigré qui va devenir plus américain que les Américains.
Absolument. Donc, c'est un immigrant de la première génération qui fête ses 6 ans pendant la traversée. Enfin, je ne sais pas s'il les fête vraiment, et dont les parents donc sont siciliens, analphabètes. Et il va grandir. C'est en Californie qu'il va grandir, mais
à Los Angeles quand même.
Oui, absolument. Mais ses parents font toutes sortes de petits métiers avant de pouvoir enfin s'acheter une ferme. Lui-même finance ses études par des petits boulots et en même temps il fait de bonnes études. Il veut devenir ingénieur chimiste. Et puis en même temps, donc il y aura toujours justement cette fascination pour l'inventeur, par exemple, pour le savant, pour le technicien aussi. Bon, des figures à la Edison qui le fascine, et il fera des documentaires scientifiques dans les années 50. Il y a cette dimension là didactique, donc le fait d'accéder au savoir. Et effectivement, il rentre au cinéma presque par hasard, si vous voulez, parmi d'autres petits boulots possibles. Et donc, du coup, effectivement, il va se figurer à lui-même rétrospectivement comme une sorte d'incarnation parfaite du rêve américain devenu réalité, donc ce rêve de réussite sociale, donc supérieure à celle des parents. Mais même si il y a et il parle quelque part dans son autobiographie du fait qu'il en a longtemps voulu à l'Amérique de ce qu'elle avait fait à sa mère, obligée de s'user la santé dans des petits boulots harassants, etc. Et puis en même temps, oui, il épouse complètement l'Amérique, donc cette fameuse terre des possibles, Land of Opportunity, et ses valeurs, je veux dire, et l'héritage italien assez peu présent dans ses films, d'ailleurs.
Il n'en parle pas, d'ailleurs, dans son autobiographie de l'Italie. C'est comme si ça n'avait quasiment pas existé pour lui.
Non, de toute façon, il en a peu de souvenirs. Et puis, son retour beaucoup plus tard, une fois célèbre, n'ont pas été forcément des plus harmonieux. Fugitivement, alors il parle indirectement de l'expérience de l'immigration dans un film de la fin du muet début du parlant, un film hybride qui s'appelle Loin du ghetto, et où là c'est sur les immigrants juifs de la deuxième génération et la tentation de l'assimilation et le risque effectivement de se couper de ses origines. Il y a une famille italienne qu'on entreaperçoit dans La vie est belle, mais c'est à peu près tout effectivement, et ce qui montre le petit peuple américain, ou les gens ordinaires qu'il montre dans ses films. Bon, peuvent être effectivement d'extractions diverses, mais sans privilégier une communauté.
Donc il fait fortune grâce au cinéma, il vit le rêve américain pleinement. Est-ce que vous diriez, Serge Chauvin, qu'il reste attaché au milieu populaire et qu'il reste finalement l'un des leurs ?
En tout cas, il se veut tel, en effet. Enfin, disons qu'il y a effectivement, alors c'est très juste, l'idée qu'il vise toujours un public populaire et qu'effectivement, de manière répétée dans ses films, il dénonce beaucoup, autant que l'injustice sociale, c'est le snobisme, disons le mépris culturel, le mépris de classe. Ça se voit dans Monsieur Dietz, par exemple, avec toujours justement l'exaltation d'une Amérique populaire ou profonde. Hein, je veux dire, ça peut être aussi les classes moyennes, mais plutôt provinciales, par opposition à des élites urbaines qui peuvent être méprisantes, qui peuvent être corrompus ou qui peuvent être simplement blasés.
Enfin, donc il n'a pas vraiment changé de milieu, en tous les cas. Vous ne diriez pas ça. Ça n'est pas un transclasse.
Bon, dans son mode de vie, si. Mais disons dans ce qu'il véhicule par ses films, non. Effectivement, mais il y a une sorte aussi d'espoir d'une certaine réconciliation des classes. Qui affleure encore et encore, enfin que ça soit dans Grande Dame d'un jour ou disons la cour des miracles peut s'allier à une aristocratie européenne d'opérette en quelque sorte, ou que ça soit dans l'enjeu l'espoir utopique d'une réconciliation entre patrons et ouvriers, entre capital et travail. Il y a cet espoir là à condition effectivement que chacun sache retrouver une part d'innocence, on va dire, souvent associée à l'enfance, et puis justement à un certain plaisir immédiat de la vie. C'est le requin de Wall Street à la fin de Vous ne l'emporterez pas avec vous, qui ressort son harmonica d'enfance et qui retrouve la joie de vivre.
Alors est-ce que ça n'est pas justement un peu du sentimentalisme? On a beaucoup justement reproché à la fois son patriotisme et aussi son sentimentalisme, l'idée aussi qu'il était foncièrement optimiste, mais peut-être un petit peu trop. Il y avait cette expression du capracorne qui fait penser au popcorn pour évoquer ces films peut-être un peu doux, un petit peu sucrés, un petit peu mielleux. Est-ce que c'est juste selon vous, Serge Chauvin?
Non, ça me paraît très 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 injuste. C'est-à-dire qu'il y ait du sentimentalisme, c'est une réalité, mais en même temps, effectivement, parler de courne, bon, courne, c'est tout ce qui est mièvre, ça me paraît très très injuste. Peut-être pour ses tout derniers films qui sont bien moins bons, mais c'est il me semble que c'est faire bon marché de la gravité et souvent même de la noirceur extrême de ces films.
Donc on peut voir chacun de ces films soit du côté noir, soit du côté doux des choses.
Oui, mais disons non seulement que la frontière est ténue comme souvent entre la comédie et le mélodrame, et qu'en fait, si on voit l'évolution de ces grands films à on pourrait dire à message entre guillemets politique ou social, l'extravagant Monsieur Dietz, Monsieur Smith, Sénat, l'homme de la rue, La vie est belle, La situation des personnages est de plus en plus désespérée. On a vraiment le spectre de la défaite, la tentation du suicide, etc.
Il y a le happy end.
Mais le happy end relève vraiment du miracle, enfin du Deus ex machina. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, dans La vie est belle, l'intervention divine devient explicite. C'est-à-dire qu'il y a, et déjà dans Monsieur Smith au Sénat. C'est à l'instant vraiment de la défaite qu'il y a un retournement de situation assez miraculeux par une rédemption du méchant, et il y a quelque chose de très volontariste dans ces happy ends.
Comme s'il n'y croyait pas lui-même, comme s'il voulait se conformer à une règle hollywoodienne du happy end.
Je pense qu'il y croit davantage que dans, par exemple, certains happy ends plaqués, manifestement plaqués, qu'on peut rencontrer dans d'autres films hollywoodiens de la période. Mais, en tout cas, d'une part, il s'agit de ne pas désespérer le spectateur, et puis voilà, de lui donner cet espoir. Et bon, il y a, disons, un optimisme de la volonté. Aussi une manière justement de bien marquer que le pire n'est pas toujours sûr, mais qu'on frôle quand même le pire et qu'il faut une vigilance de chaque instant, en fait.
Une des aspirations de Capra en dehors de l'Amérique, c'est Dickens. Ça, c'est très sensible dans La vie est belle. C'est Dickens. Et Dickens, c'est le Londres d'une époque, victorien, où justement il y a la misère qui est un malheur, la reine Victoria qui est quand même bonne, mais entre deux les méchants qui sont pas bien. Et il reste un peu dans cette idée. Bon, moi à chaque fois que je vois La vie est belle, je pense au conte de Noël de Dickens, c'est vraiment très très proche. Bon, et donc il a une espèce de manière d'aborder culturellement au niveau, disons, d'un divertissement populaire avec idées les choses sur le système du conte. Le conte à la Dickens, je dis bien. Pas tellement à la Mark Twain, plutôt Dickens, plutôt en anglo-saxon, très curieusement alors qu'il est italien d'origine. Et alors ce qui se passe, c'est que il attaque des choses dans l'Amérique qui sont des choses en effet qui sont des plaies, et il a raison de le faire, mais il sait aussi qu'il attaque ce que tout le peuple déteste. Le public populaire du Michigan, quand il voit les films de Capra de cette époque, il n'aime pas le notaire parce qu'à cause du notaire, il a perdu sa terre, c'est les paysans. L'ouvrier, il n'aime pas le patron qui a des milices qui l'empêchent d'aller pisser quand il a envie d'aller pisser en travaillant. Il y a tout ça qui joue.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec Noël Simsolo, toujours interrogé par Michel Cazenave en 1985. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Serge Chauvin? C'est vrai qu'il y a côté conte de Noël, parce que le conte de Noël, c'est à la fois, en effet, ça se termine bien, enfin logiquement c'est censé se terminer bien, mais c'est tout de même très noir.
Oui, alors là, je suis absolument d'accord sur cette fascination de Capra pour Dickens et cette filiation évidente.
Y compris avec le côté social de Dickens qu'on retrouve chez Capra.
Absolument, mais disons que chez Dickens, on est encore dans une vision, une dénonciation de la pauvreté qui n'est pas à proprement parler politique, qui est plutôt morale finalement. Et ce qui est vrai aussi chez Victor Hugo d'une certaine manière, il y a aussi une veine mélodramatique commune, et puis effectivement une filiation évidente de Dickens à Griffith, comme disait Eisenstein, et puis à Capra, l'influence directe du conte de Noël ou chant de Noël, que selon les traductions de Dickens sur la structure même de La vie est belle est évidente. Et disons, s'il y a happy end dans La vie est belle, c'est plutôt quand même sur le mode de la résignation, c'est-à-dire les choses pourraient être encore pires qu'elles ne sont, mais le miracle y est tout relatif.
Parce que La vie est belle, c'est l'histoire d'un homme qui est prêt à se suicider. C'est la veille de Noël, il a passé sa vie à aider les autres, et là il se retrouve dans une espèce d'impasse, et il se rend compte que avoir aidé tout le monde finalement ne lui a servi à rien. Et là un ange descend pour venir le secourir, pour lui venir en aide.
Absolument, le stratagème de l'ange, c'est de lui montrer à quoi ressemblerait la ville où il a vécu toute sa vie et d'où il a toujours voulu s'échapper, s'il n'avait pas existé. Et donc, cette vision infernale lui permet de relativiser son propre sort et donc le sauve de cette tentation. Mais effectivement, il est ce héros George Bailey est une figure profondément sacrificielle. De dire incarné de nouveau par James Stewart qui jouait déjà Monsieur Smith, et on a effectivement ce schéma récurrent un schéma de d'abnégation, de sacrifice qui permet in extremis une rédemption ou une rédemption des méchants, mais ça de moins en moins au fil des films, ou simplement donc une prise de conscience des personnages qu'il défend, des autres personnages qu'il défend, et donc d'une communauté qui finit effectivement, une fois passée son ingratitude initiale ou son infidélité initiale, dirait-on, par se rallier à lui. Et donc ce schéma de rédemption, il est tout à fait récurrent.
Et on va voir que ça s'applique en particulier à Monsieur Smith au Sénat. Mais un mot encore sur La vie est belle, film qui paraît, qui sort en salle en 1946, donc après toutes les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Et ce film s'appelle La vie est belle. Et c'est un feel-good movie. C'est un film qui n'a pas fonctionné. Est-ce que là, Capra n'a pas perdu un petit peu, après tous les grands succès des années 30, dont fait partie Monsieur Smith au Sénat, est-ce qu'il n'a pas perdu un petit peu le sens du rapport à l'histoire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas compris là?
Alors, c'est encore difficile d'analyser les causes de l'échec initial du film. Parce que il y avait, c'était en même temps un film de son époque. C'est un film d'après-guerre, jusque dans sa désillusion, quand même assez poignante. Et effectivement, c'est un film dont le ton et le procédé viennent peut-être trop tard ou trop tôt, d'une certaine façon, en 1946. Et là encore, il faut aussi replacer justement donc le film dans le contexte de la vie et de l'activité de Capra, c'est-à-dire que dès l'entrée en guerre des États-Unis, donc fin 41, début 42, Capra cesse de faire des films pour Hollywood,
Il travaille pour le gouvernement
directement. Et alors là, c'est peut-être d'ailleurs le point culminant d'une certaine manière de sa reconnaissance comme américain. Bon, alors la reconnaissance professionnelle, les Oscars, le succès critique, avoir son nom au-dessus du titre, c'est le titre de son autobiographie d'ailleurs.
Above the title.
Exactement, il l'avait déjà et c'était son obsession. Mais d'une certaine manière, la reconnaissance citoyenne ultime, c'est que en 1942, ce soit à lui que fasse appel le gouvernement, le ministère de la guerre, superviser des films de propagande, on peut dire, des documentaires de propagande à l'intention des conscrits et même bientôt de la population civile. Donc un cycle documentaire qui s'appelle Pourquoi nous combattons et qui reprend d'ailleurs des procédés, des images d'une séquence de Monsieur Smith au Sénat et pour à la fois célébrer les valeurs américaines et vu comme équivalente aux valeurs démocratiques, vues comme équivalente aux valeurs, disons, spirituelles, œcuméniques de l'humanité, si l'on veut, et d'expliquer aussi la cause de la guerre à des Américains jusque-là isolationnistes. Et ça, et pendant toutes les années de guerre, Capra s'occupe de ce type de projet. Et simplement, quand il revient à Hollywood, bon, alors il avait déjà quitté son studio depuis le studio de pratiquement toute sa carrière, c'est-à-dire la Columbia.
Il avait quand même largement aidé à faire décoller, parce que la Columbia a beaucoup profité des grandes réussites au box-office de Capra.
Ah bien sûr, mais Capra était la locomotive de la Columbia, c'était son cinéaste de prestige, c'était un studio pauvre, plutôt spécialisé dans la série B, et c'est lui qui lui offrait des Oscars et de grands succès publics. Mais disons, bon, il y avait une insatisfaction croissante, une sorte de désamour mutuel entre lui et Harry Cohn, le patron du studio. Mais simplement, au retour de la guerre, et donc qu'il n'avait pas vécu sur le théâtre des opérations, mais donc, dans laquelle il avait quand même baigné, si l'on peut dire, Capra s'est trouvé un petit peu en porte-à-faux par rapport à Hollywood. Pas forcément attendu à son retour, et il a tenté de monter une compagnie de production indépendante avec deux autres grands cinéastes qui avaient aussi participé à l'effort de guerre, c'était William Wyler et George Stevens. Mais donc ça s'appelait Liberty Films, avec en emblème la cloche de la liberté de Philadelphie, donc qu'on voit dans Monsieur Smith au Sénat. Et en fait, bon, la compagnie n'a pas duré longtemps, et l'échec du film vient peut-être, peut-être du fait qu'il a... Je pense qu'il y avait un reste, effectivement, d'idéalisme d'avant-guerre et d'une tonalité peut-être associée à ces comédies d'avant-guerre. Et en même temps, je pense que c'est surtout le côté dissonant du mélange justement de sentimentalisme et de noirceur et le parti pris quand même particulièrement gonflé quand même de l'argument du film qui a fait que le film est arrivé à la fois il a paru à la fois anachronique par rapport à d'autres visions plus réalistes de l'après-guerre et en même temps peut-être trop singulier et voilà.
Allez, intéressons-nous au cœur de notre sujet avec un premier extrait de ce film Mr. Smith au Sénat.
Quoi ? Vous avez osé nommer au Sénat un chasseur d'écureuils ?
Écoutez, Jim, c'est un esprit simple et naïf. C'est un brave illuminé qui connaît Lincoln et Washington par cœur. Qui se tient en garde à vous devant le gouverneur. Qui recueille tous les animaux perdus, les chats...
Mais quel rapport ?
Vous, Joe, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est l'homme rêvé qui n'a jamais fait de politique de sa vie. Qui, dans 10 ans, n'aura toujours pas compris en quoi cela consiste. Et chose très importante, oui, c'est là qu'est mon trait de génie. Il nous apporte des quantités de voix. C'est le héros de 50 000 gamins et de leurs 100 000 parents. Jugez du temps des félicitations qui arrivent à flot ici. Et sans trop vouloir me vanter, il faut avouer que je...
Vous avez nommé ce type vous-même sans rien nous demander.
Mais ça me semblait être tellement...
Je vous avais dit qui nommer ?
Oh, Jim.
Ça me semble positif. Herbert nous a peut-être déniché l'oiseau rare.
Ah, qu'est-ce que je vous disais ?
Vous croyez que ce sera facile de tenir en main ce type-là, Washington ? Vous croyez qu'il marchera droit ?
Je le manœuvrerai. Un tel patriote, si féru de Lincoln et de ses grands principes, il verra tout sous l'angle de l'idéalisme. Oui, c'est ce qu'il nous fallait.
Charles !
Oui ?
On va exploiter au mieux cette espèce d'engouement des mômes et de leurs parents, avec banquet et guirlande.
Ah là, c'est ça, un splendide banquet. Ah !
Alors dans ce film, Serge Chauvin, grand succès de l'année 1939 aux États-Unis, Capra dénonce la corruption dans la politique nationale. Est-ce qu'on peut raconter déjà pour commencer un petit peu l'histoire, l'intrigue ?
Oui, et c'est l'histoire donc d'un ingénu provincial,
chef scout
qui s'appelle Jefferson Smith. Alors donc il a le nom de famille le plus commun qui soit, mais il a le prénom d'un des premiers présidents et père fondateur de la nation américaine.
Il a été élevé justement aussi dans l'adoration de l'histoire des présidents, des grands présidents américains.
Absolument, et en particulier de Lincoln, ça j'y reviendrai, et parce que c'est une figure centrale tutélaire dans le film. Et en fait, il se retrouve bombardé sénateur parce que il y a un sénateur de son état, alors un état de province qui n'est jamais nommé, bien sûr. Le sénateur vient de mourir et le gouverneur, comme il en a le pouvoir, le nomme sénateur par intérimaire, disons pour terminer le mandat, parce que il faut à l'autre sénateur de l'état et à l'homme d'affaires qui tire les ficelles derrière tout ça, une sorte d'homme de paille, si vous voulez, quelqu'un qui ne fera pas de vagues et qui ne remettra pas en cause un projet de détournement de fonds publics.
De construction d'un barrage.
C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'homme d'affaires, avec la complicité du sénateur déjà en place, a acheté des terrains qu'il compte revendre très cher à l'État fédéral pour la construction d'un barrage. Or, le problème, c'est que donc Jefferson Smith, qui au départ ignore tout, bien sûr, de ses manœuvres et idolâtre l'autre sénateur, veut installer son camp scout,
oui.
Mais un camp aussi presque à la Léo Lagrange, on pourrait dire, pour tous les enfants d'Amérique, enfin tous les garçons d'Amérique, sur ce terrain-là, mais à son insu, bien
donc
sûr.
Donc il est extrêmement naïf, il faut que sa secrétaire, qui elle est assez rouée, qui connaît bien tout ce qui se passe à Washington, lui explique ce qu'il est en train de se passer. Et donc à ce moment-là, il va évidemment changer de perspective et devenir ce héros de la vraie démocratie aux États-Unis.
Oui, mais alors... Mais non sans être d'abord vilipendé, parce qu'il a en face de lui des ennemis extrêmement puissants. Et là, c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans la peinture que fait Capra de l'Amérique de son époque, et des risques qu'encourt la démocratie, c'est qu'en fait, il y a la corruption politique, mais après tout, bon là, ça concerne 2 sénateurs sur une centaine, c'est pas tout le Sénat qui est remis en question, mais simplement, bon, on a aussi beaucoup d'aveuglement ou d'immobilisme aussi à côté. Mais surtout, on a des forces redoutables qui menacent de saper la démocratie, qui sont non seulement des puissances d'argent, des capitalistes monopolistes et sans scrupules, n'hésitant pas à recourir à la violence, et qui ont causé la mort aussi du père Monsieur Smith, journaliste idéaliste, champion des causes perdues, comme il dit. Et par ailleurs, et ça c'est aussi un motif absolument récurrent dans Monsieur Deeds, Monsieur Smith, l'homme de la rue, et jusqu'à l'enjeu en 1948, c'est le fait que c'est la confiscation du pouvoir médiatique. Et le fait que la parole individuelle de Jefferson Smith, discourant au Sénat, vient se heurter à la machine journalistique et radiophonique de la figure maléfique qui peut confisquer la parole démocratique et l'étouffer.
Un extrait justement à ce sujet.
We're bringing everybody up from state headquarters.
All right, where are they? Come on, get these teletypes moving.
Did you get Hendricks?
They're looking for him.
They're looking for him, an editor. Why isn't he at his desk where he belongs? Joe, don't you think you'd better get back into that Senate?
On va faire venir tout le monde du quartier général.
Il devrait être là, envoyer des télégrammes, bon sang.
Dépêchez-vous, faites vite, faites vite.
J'ai eu Hendricks.
On n'arrive pas à le retrouver.
On n'arrive pas à le retrouver, un rédacteur en chef. Pourquoi ce crétin n'est-il pas à son bureau? Joe, vous ne feriez pas mieux de retourner au Sénat?
Jim le Petit s'adresse à notre État et essaie de soulever l'opinion publique contre nous. Si jamais on peut vérifier ce qu'il...
Il n'arrivera jamais à ses fins. Je ferai l'opinion publique en l'espace de quelques heures. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Je ferai un tableau si noir de cet idiot que... Votre opinion publique, je m'en charge. Je vous assure, Joe, votre place est au Sénat. Vous devez tenir les sénateurs en main.
J'ai essayé tous les moyens pour lui revivre la parole. J'avoue n'avoir plus l'estomac pour recommencer.
Si cependant il arrivait à convaincre les sénateurs, vous n'auriez plus qu'à vous mettre une balle dans la tête, vous le savez. C'est une partie à jouer. Ou bien c'est la catastrophe, ou bien on en sort plus grand que jamais. Il faut aller jusqu'au bout, sans nous poser de questions. Il faut qu'on frappe fort, il faut qu'on enfonce.
Vous avez Jackson City, Hendricks.
Faites-moi plaisir, retournez au Sénat. Allô, Hendricks? Bon, voilà mes instructions. Il faut bloquer tout le baratin de Smith au Sénat, ainsi que la presse de Washington qui pourrait avoir des articles pro-Smith, c'est clair? Contrôlez aussi tout le restant de la presse de notre État. Oui. Oui, ces petits journaux fauchés de l'opposition qui, au nom de la liberté, refusent de faire équipe avec nous. Eh bien, vous allez les museler pendant 24 heures. Oui, retardez leur livraison par la force s'il le faut, je ne veux pas le savoir, moi. Faites-les taire 24 heures, c'est tout ce que je vous demande. Vous, de votre côté, ne restez pas passif, allez-y, harcelez-le. Oh, les accusations classiques, ce criminel bloque un projet vital, que ça affame la population. Qu'est-ce qui vous prend de me regarder comme ça? Retournez au Sénat, Joe.
Alors, quelle est la vision de la presse de Frank Capra dans ce film, Serge Chauvin?
Il y a deux aspects. On a effectivement ce mania de la presse locale, donc qui finalement tire les ficelles dans tout son état. Et peut complètement museler toute parole dissidente, manipuler les foules, et à tel point que bon, la seule ressource de Jeff Smith pour faire connaître la vérité à son électorat, c'est le journal Scout.
Ouais.
Sauf que voilà, les
Scouts se font frapper.
Les Scouts se font frapper, renversés par des camions, etc. Donc c'est d'une extrême violence, et on retrouvera ça dans L'homme de la rue, où justement la manipulation médiatique, notamment par la radio, cache une tentative de prise de pouvoir fasciste, pas d'ailleurs si différente de celle du complot contre l'Amérique. Donc
on parlera demain.
Exactement. Et puis en même temps, on a quand même alors cette la figure des figures récurrentes de journalistes, alors déjà dans sa grande comédie sentimentale New York Miami, mais aussi ce qu'on voit dans Monsieur Dietz ou dans L'homme de la rue, ce sont des journalistes de la presse écrite. Alors là, donc dans ces deux films là ce sont des femmes, en l'occurrence, comment dire, au départ assez cyniques et manipulatrices, et qui finalement là aussi connaissent une rédemption par l'amour, mais une sorte sont gagnées ou regagnées par l'idéalisme du personnage masculin.
Un peu comme la secrétaire.
Et ici, c'est exactement le cas de l'assistante parlementaire, jouée par Jean Arthur, qui jouait déjà la journaliste de l'extravagant Monsieur Dietz. Et puis, on a un personnage de comparse, un journaliste blasé et alcoolique, mais au fond complètement
idéaliste.
Toujours
alcoolique, hein, les journalistes chez Capra.
Oui, et souvent dans le cinéma américain. Mais celui-là, là encore, va jouer le jeu, faire ce qu'il peut, etc., pour aider la cause de Jefferson Smith. Donc, on a les deux aspects possibles, et là encore cette idée de justement de l'idéaliste qui vient rappeler des personnages désabusés ou cyniques ou blasés à leur idéalisme ancien, à un certain état d'innocence, etc. Mais c'est toujours à reconquérir. Et ce qui est très frappant, c'est que quand il arrive à Washington, où il n'a jamais mis les pieds, il est ébahi de voir le Capitole au loin, et pour tous ces personnages, c'est ben oui, c'est une toile de fond, on le voit tous les jours, d'ailleurs c'est une transparence de studio, etc. Et là-dessus, on a cette séquence très célèbre, mais qui est comme une parenthèse dans le film, où Monsieur Smith s'échappe et fait une visite dans un car touristique de Washington. Mais là, en fait, dans cette séquence de 2-3 minutes, il disparaît quasiment de l'écran, et on a une sorte un montage synthétique, montage dynamique, qui accumule les symboles, les comment dire, visuels, monumentaux, musicaux, même de l'Amérique, de l'histoire américaine, comme pour figurer une idée, ou plus exactement un idéal. C'est la vision qu'il se faisait de Washington, enfin de Washington, le lieu, comme incarnation justement de toutes ces valeurs. Et l'idée, c'est que pour lui, ce ne sont pas des monuments figés, ce sont les incarnations vivantes d'une idée. Et donc quand au musée il voit la Déclaration d'Indépendance, on voit à nouveau les plumes la signer. Et dans l'extrait qu'on entendait en début d'émission, où on a le jeune garçon qui lit à haute voix un texte qui est gravé dans le marbre, mais auquel il faut redonner vie, justement, d'une génération à l'autre, c'est le discours de Lincoln à Gettysburg, discours commémoratif, justement, des martyrs de la guerre de sécession, des martyrs de l'Union, avec l'idée, il ne faut pas que leur sacrifice ait été vain, il faut poursuivre leur combat. Et donc, il faut toujours se battre de nouveau pour la démocratie. Et de ce point de vue-là, c'est là où Lincoln sert de modèle, parce que Lincoln est une figure sacrificielle et une figure qui n'est pas fondatrice de l'Amérique, mais refondatrice de l'Amérique, qui reconstitue l'Union.
Pour comprendre la manière dont Capra réfléchit la démocratie américaine, et pour comprendre son attachement aussi aux États-Unis, en effet, il faut tourner autour de l'histoire de Lincoln lui-même, parce que Lincoln, c'est cette personnalité qui s'est élevée aussi, tout comme Capra jusqu'aux plus hautes sphères de la société, qui a été assassiné, qui est donc un martyr, et qui donc est une belle figure pour le peuple. Au fond, Lincoln, c'est une figure qu'on pourrait qualifier de populiste, et Capra se met dans ces pas-là, enfin, se sent en plein accord avec ce type de trajectoire, qui est une trajectoire individuelle, mais une trajectoire héroïque, comme je le disais tout à l'heure.
Absolument. Et alors déjà, effectivement, Lincoln, c'est ce pecno de l'Illinois qui a souvent été moqué par ses adversaires politiques, effectivement, pour sa gaucherie, et qui est célébré la même année par John Ford, en l'incarnant par Henry Fonda dans Vers sa destinée. Et d'une certaine manière, c'est une figure plus... plus cher au cinéma américain que les pères fondateurs comme Washington. Et parce qu'en fait, il y a cette dimension effectivement populaire, cette dimension idéaliste, et en quelque sorte, c'est la figure christique de l'Amérique. C'est-à-dire, si Washington et Moïse, celui qui grave les tables de la loi, on va dire, enfin, avec quelques autres, Lincoln, c'est celui qui doit se sacrifier pour réconcilier la nation avec elle-même. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et effectivement, Monsieur Smith rentre dans le mémorial à Lincoln comme en se découvrant, comme dans un temple de la démocratie, vraiment, il y a une dimension sacralisée. Et ce qui est très beau, c'est que et c'est là aussi qu'il ira se réfugier, puis se recueillir et repuiser des forces grâce aussi à cette femme qu'il aime après un premier échec, après un déshonneur apparent. Mais dans la scène où l'on entend la lecture du discours de Gettysburg par l'enfant, c'est-à-dire qu'on a trois générations qui sont présentes. L'enfant est accompagné de son grand-père qui ressemble à un immigrant de la première génération, et par ailleurs on voit aussi un vieil homme noir se découvrir et se recueillir devant le monument, un homme qui est peut-être assez vieux pour être né esclave, ou en tout cas qui est là aussi un descendant direct d'esclave. Et là, il y a une dimension bien sûr consensuelle, réconciliatrice, si vous voulez, de la nation, et à la fois dans toute la diversité de ses origines et une volonté réconciliatrice.
Non, messieurs, il n'y a pas de compromis avec la vérité. C'est tout ce que je tenais à dire en prenant la parole. Quand cela, au fait, j'ai l'impression que c'était l'an dernier.
Dick, il faut l'arrêter, il se passe des choses affreuses et ça risque d'empirer.
Il l'écoute, alors patientez un petit peu.
Ne soyez plus si terre à terre. C'est tout ce que je demande. Élevez-vous jusqu'à cette statue qui est au sommet du dôme du Capitole, cette statue qui symbolise la liberté. Et regardez donc ce qui se passe à travers ses yeux si vous voulez avoir une vue objective. Vous ne verrez pas que le paysage. Vous verrez tout ce que peut avoir obtenu l'homme de lui-même et contre lui-même après des siècles de dures batailles. Une bataille pour quelque chose de meilleur que la loi de la jungle. Une bataille qui lui donne le droit de se tenir debout, libre et décent, digne de l'image de celui qui l'a créé, sans problème d'origine, de race et de croyance. C'est cela que vous verrez. Il n'y a nulle place en ce lieu pour la calomnie, la corruption, la lâcheté, ou le compromis avec les libertés humaines. Et si ce sont là les vertus que les grandes personnes ont apportées au monde, qu'on leur a transmises, alors dépêchons-nous de faire ce camp pour les enfants et de voir ce qu'eux feront. D'ailleurs, il n'est pas trop tard, parce que notre cher pays reste plus grand que les Taylor, ou que vous, ou moi, ou qui que ce soit d'autre. Les grands principes ne pâlissent pas lorsqu'ils viennent de la lumière, ils resplendissent. À vous de ne pas vous voiler la face.
Un extrait à la fin du film Monsieur Smith au Sénat, où le sénateur épuisé, seul contre tous, Mr. Smith, triomphe des puissances de l'argent et de la corruption. Film de 1939, on l'a dit tout à l'heure, Serge Chauvin, à l'époque, le public sort de la Grande Dépression, il y a quand même la montée des périls en Europe, et puis il y a une défiance très forte envers les élites, un peu comme aujourd'hui. On retrouve très bien dans ce film l'idée d'une polarisation, avec d'un côté le peuple et de l'autre côté les élites. Ça résonne beaucoup, selon vous, avec ce que l'on connaît, ce que l'on vit.
Je pense que il y a cette dimension-là, effectivement, cette polarisation. Je crois que ce qui est encore plus pertinent aujourd'hui dans le film a surtout à voir avec le poids des puissances d'argent et l'interférence des puissances d'argent dans avec ou sans corruption, hein, je veux dire dans la politique, dans la vie politique, et d'autre part cette question de la manipulation médiatique. Je veux dire c'est ça je crois que c'est beaucoup c'est ce qui rend le film particulièrement aigu en fait.
Et qu'est-ce qu'il en dit finalement? Est-ce qu'il en pense quelque chose? Parce qu'on l'a dit en début d'émission, Capra est quelqu'un de finalement assez ambigu. Est-ce qu'il n'aurait pas pu apprécier par exemple un personnage comme le président Trump? Qu'est-ce qu'il en aurait pensé finalement du président Trump qui communique directement avec le peuple?
C'est assez indécidable parce que bien sûr, enfin c'est comment dire. Mais il me semble quand même que le populisme de Trump est d'une autre nature que le populisme qui a des racines historiques, là par contre, pas forcément illégitimes, hein, dans la vie politique américaine. Il y a eu un vrai parti populiste à la fin du 19e siècle. Mais je crois que malgré tout, Trump me paraît plus proche, je peux pas dire ce que Capra en aurait pensé, mais Trump me paraît plus proche tout de même des plutocrates mégalomanes qui confisquent à la fois le pouvoir, l'argent et la parole publique qui sont incarnés par Edward Arnold par exemple dans Monsieur Smith au Sénat ou dans L'homme de la rue. Il y a quand même davantage quelque chose de cet ordre.
Est-ce qu'il n'y a pas eu une admiration réciproque à l'époque pour Capra et un certain nombre de dictateurs européens? On a dit que Mussolini, par exemple, aimait beaucoup Capra. Qu'est-ce que Capra pensait de Mussolini? Qu'est-ce que Capra pensait de Franco?
Franco, je ne saurais pas dire. Enfin, mais je pense que Capra a quand même trop d'attachement aux valeurs américaines, à ce qu'on considère comme la démocratie, pour admirer les dictateurs. Alors il y a des choses. En plus, c'est qu'en fait très tôt après l'immense succès et reconnaissance publique et critique professionnelle, etc. de New York Miami, Capra fait une dépression et puis il est ramené à lui, raconte-t-il, par un homme sans doute un adepte de la science chrétienne, sans doute, qui lui fait écouter à la radio un discours d'Hitler en lui disant « Vous n'avez pas honte, pendant ce temps, on est en 34, hein, vous n'avez pas honte de vous lamenter sur votre sort heureux, et vous avez les moyens de faire bouger les choses, faites quelque chose face à lui. » Et en fait, l'obsession de Capra, qui va à la fois dans ses films de fiction et qui va se prolonger, bien sûr, avec les documentaires de « Pourquoi nous combattons », c'est l'idée de... d'utiliser ses talents de, on pourrait dire, de manipulateur de public, mais effectivement, c'est-à-dire le cinéma comme médium de masse, mais pour œuvrer du côté du bien ou de ce qu'il considère comme le bien. Et disons, et pourquoi nous combattons, il y a l'idée de faire pour la démocratie ce que Leni Riefenstahl a fait pour le nazisme, en fait. C'est-à-dire il reconnaît la terrible puissance du cinéma de Riefenstahl, comme il avait une admiration aussi par ailleurs pour le cinéma soviétique, et en se disant mais œuvrer aussi puissamment, mais au risque de la manipulation, mais pour des valeurs qui lui paraissent légitimes.
Point un petit peu du même ordre, c'est la vision que Capra peut avoir de tout ce qui est un intellectuel. Alors que ce soit les poètes, que ce soit les psychiatres, on retrouve dans un certain nombre de films une forme de mise à distance de ces personnages d'intellectuels. Est-ce qu'il les méprisait? Est-ce qu'il ne les aimait pas?
Ça, c'est toujours quelque chose d'assez ambivalent chez les cinéastes américains de cette génération qui sont à la fois cultivés, mais disons il y a quand même un idéal qui est celui de l'intellectuel qui sache parler au peuple et qui ne soit pas coupé du peuple. C'est pour ça que justement l'idéal littéraire, ça serait Dickens ou ça pourrait être Victor Hugo. L'intérêt pour la figure du bon journaliste, c'est que le journaliste, justement, c'est quelqu'un qui est ancré dans le réel, qui sait parler au peuple, qui sait parler comme le peuple. Et donc, il y a aussi une fascination toute américaine, justement, pour le parler populaire et l'idée, et pour la culture populaire.
Merci beaucoup Serge Chauvin d'être venu nous parler aujourd'hui de Frank Capra et en particulier de son film Mr. Smith au Sénat. Je rappelle que vous êtes critique de cinéma, professeur de littérature et de cinéma américain à l'université Paris-Nanterre, mais également traducteur. Tout de suite sur France Culture, c'est le moment de la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique que vous nous proposez aujourd'hui, Jérôme Dupuis. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Vous allez nous parler d'un livre illustré. De quoi s'agit-il ?
Alors peut-être du plus beau livre illustré de 2020 et peut-être même de ces 5 dernières années, carrément. Si vous devez bientôt faire un cadeau à un amateur de dessin et ou de littérature, un adulte, un adolescent, allez le feuilleter en librairie, il y a de bonnes chances que vous soyez séduit. Il s'agit de l'adaptation du roman « Des souris et des hommes » du prix Nobel de littérature John Steinbeck par Rebecca d'Outremer. Bon, pourtant, au départ, il faut bien l'avouer, ce roman de 1937 éveille plutôt en nous de lointains souvenirs de lecture obligée du temps du collège, avec ses deux personnages essorés par la Grande Dépression, Georges, le petit futé, et Lénie, la grande brute stupide mais attachante. On se souvient que les deux hommes errent un peu perdus dans les déserts américains, à la recherche d'un toit ou d'un bon repas. Le premier exploit de Rebecca d'Outremer, 49 ans, star surdouée de l'illustration française et qui avait déjà adapté Lewis Carroll ou Michel Tournier, c'est de nous faire redécouvrir et même aimer ce classique de la littérature américaine. Ensuite, c'est d'avoir trouvé un traitement graphique qui nous surprend à chaque fois que nous tournons une page.
Et alors ce traitement graphique, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a justement de particulier ?
Alors, il est d'une infinie variété. Rebecca d'Outremer, qui a travaillé pendant 18 mois sans arrêt, 12 heures par jour à ce projet, multiplie les registres. On passe du gros plan pleine page à une succession de petites scénettes dialoguées, d'une sanguine à une gouache, d'une prostituée expressionniste à des représentations d'animaux soyeux, mais attention, jamais mièvres. Rappelons que les animaux sont justement l'une des spécialités de l'illustratrice, et avec le personnage de Lénie, on peut dire qu'elle est servie, puisqu'il ne rêve que de tenir dans ses grosses mains des chiots, des souris et des lapins. Ces 428 pages ont été réalisées selon différentes techniques, crayons de couleur, gouache, sur des grandes feuilles tendues sur des planches de bois. Parfois, elles ont été graissées à l'huile ou à la cire, après coup, et surtout, pas la moindre retouche à l'ordinateur. C'est sans doute cela ce qui leur donne cette espèce d'onctuosité très particulière. Passionnée de photographie, Rebecca d'Outremer fait aussi de nombreux clins d'œil à Walker Evans, le célèbre photographe de la Grande Dépression. Certaines pages sont d'un noir profond, d'autres lumineuses comme un ciel californien. Le format de l'ouvrage lui-même, 20 cm sur 24, entre celui d'un roman, disons, normal et le beau livre, en fait un objet compact, inquiétant au premier abord, avec sa couverture sombre, mais lumineux à l'intérieur.
Alors est-ce que cette profusion d'images, elle ne finit pas par cannibaliser un peu le texte de Steinbeck ?
Pas du tout, au contraire. Cette inventivité n'est jamais gratuite, elle est toujours au service de l'histoire et elle assure une très grande fluidité entre le texte et l'image. La surprise permanente nous pousse en fait irrésistiblement à vouloir découvrir la double page suivante. À l'arrivée, Rebecca d'Outremer parvient à allier deux éléments souvent difficiles à concilier, virtuosité et émotion. On pourrait dire de cet ouvrage exceptionnel qu'il est un livre pour enfants, mais pour adultes. Un double plaisir, donc, pour le lecteur.
Voilà qui donne envie des souris et des hommes par John Steinbeck, traduit de l'américain par Maurice Edgar Coindreau et illustré, donc, par Rebecca d'Outremer. C'est aux éditions Tichina. Merci beaucoup, Jérôme. À très bientôt. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et Olivier Arnay. Demain, suite de notre semaine américaine, Paul Lévy viendra nous parler du livre Le complot contre l'Amérique de l'écrivain Philip Ross, qui raconte l'arrivée fictive au pouvoir de l'aviateur Charles Lindbergh, sympathisant nazi notoire. À 20h30, la fiction, ce sera les aventures de Tintin avec les bijoux de la Castafiore, d'Hergé évidemment. Mais dans un instant, sur France Culture, on retrouve les sciences.